Bienvenue à bord.
Bienvenue tout le monde, ici c'est votre monde. Décolle ce soir avec de la bonne musique, mais aussi on finit avec notre sujet de la semaine. Let's go! Aujourd'hui avec de la bonne musique, des îles, je le disais tantôt, ouais, pourquoi pas finir avec Danza Kuduro. Vous avez bien compris, c'est avec Don Omar et Lucenzo et tous ces grands de la musique. Et bien sûr, on est ensemble les amis. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos amis qui sont en train de nous capter ce soir. Ils sont nombreux à nous capter partout. Et ils disent, Roger, là, nous sommes avec toi. Et bien sûr, vous êtes avec moi. On va décoller. Je vois déjà les messages de Akali, je vois Soumaïla, Kone, je vois tous nos amis en tout cas qui sont scotchés chaque soir entre 20h à 21h temps universel. Et là je vais parler même de Eva Dakar, elle est déjà prête. Ouais, je te vois Eva. On est ensemble, let's go avec Danza Kuduro. C'est donc Omar et bien sûr Lucenzo. Aïe. Danza Kuduro. Et bien c'est comme ça qu'on décolle ce soir, hein, avec cette vitesse haute altitude. Venez de vous joindre à nous, attachez bien vos ceintures de sécurité parce que ce soir, c'est high volume. Aïe. Si vous êtes à Bandal, merci beaucoup aux amis de Bandal et nos amis qui nous captent bien sûr à Kintampo Magasin. En tout cas, Washington DC, c'est comme ça qu'on bouge ce soir.
Roger Muntou dans RM Show sur VOA Afrique.
C'est ce qu'on appelle bien sûr compas ce soir. Vous écoutez de la bonne musique ce soir. soir, Island Music. Merci beaucoup à vous, les amis. Et ceux-là qui sont à Kingston, Jamaica. On va écouter Roja. Ouais, c'est Egyptian qui nous chante. Tell me, tell me. Tell me.
Can you give me the tightest hold me ever get in my life?
I can't hear you.
You're the one for the squeeze.
Okay.
Put me things all around.
Okay.
Can you give me the tightest hold?
It's Egyptian straight from Kingston, Jamaica. Okay. Pour ceux-là qui sont à Bukavu, à Goma, ceux-là qui adorent Egyptian, qui ont demandé bien sûr ce morceau, parce que quand même, hein, ça date, mais ça fait bouger jusqu'à aujourd'hui.
Y'all me just want to squeeze, yeah. Put me things all around, yeah. Y'all you give me the tightest hold me ever get in my life. Oh Lord, like a fast bike on the road, boom, 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 boom. Y'all pan it back and share, boom, 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 boom. Give me the bag of one, the fat, come, come, come. When I play last one time, it come to come, come. Me out of control, I'm more fire, she want the nice fool. She say more and more, and still she grown, and still me multiply more, y'all know I. Just hold me, put me arms right around ya. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Girl, me want fi just squeeze ya. Put me arms right around ya. Can you give me the tightest hold me ever get in my life? Squeeze ya around ya. Tightest hold me ever get in my life. Y'all me just want to squeeze, yeah. Put me things all around, yeah. Girl, you give me the tightest hold me ever get in my life. Squeeze, yeah. Around, yeah. Tightest hold me ever get in my life. Love, yeah, yeah.
As long as it come to come. Man's on the path of something.
Avec Roger Muntou.
Esto es exclusivo de Royalty. Para Farina Marranquia. Es el blowhop.net.
Tell them, Kelly.
Cuerpo sensual. Dulce mirada que me invita a pecar.
Rakim y
Kimwai. No aguanto más.
La realeza.
Estoy loco por sentir tu cuerpo. Quisiera pasar el tiempo haciéndote, bailándote, peleándote,
¡Suscríbete al canal!
quisiera pasar el tiempo haciendo
eyes on you.
Tu maldices pensando en mí, you're on my love. This love is over me, sin la condición.
Et voilà les amis, c'est de la bonne musique ce soir. Vous écoutez RM Show, une émission de VO Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Un grand plaisir de vous savoir nombreux à nous capter ce soir. C'est le week-end, bien sûr, qui dit le week-end, dit Island Music aujourd'hui, vendredi. Et n'oubliez surtout pas que c'est cette journée internationale de la presse. Et on en parle aujourd'hui parce que on aura des invités. Notre collègue d'ailleurs, Georges, sera là avec nous. Et bien sûr, Kerwin Maïzo sera notre invité aussi. Pourquoi pas pour en parler, très très important, et on verra comment la crise environnementale et l'urgence même du journalisme en 2024, cette journée mondiale de la liberté de la presse sera consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale actuelle. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, c'est au plus 1 703 350 37 31 pour participer à cette émission comme vous le faites si bien, comme vous le faites chaque soir entre 20h à 21h temps universel. Mais d'abord, les bonnes choses. Les bonnes choses, vous savez, c'est quand on a toujours des invités dans cette émission. Donc, on passe à notre invitée de ce soir. Elle est venue par accident dans RM Show. Elle n'était pas censée être avec nous dans RM Show. Mais elle est là avec nous. Elle est tellement spéciale parce que elle a son univers. On va entrer dans son univers un peu captivant. De notre invitée, Eleanor Yameogo, une réalisatrice talentueuse d'origine franco-burkinabé. Son voyage cinématographique débute en l'Institut supérieur de l'image et du son à Ouagadougou, puis s'épanouit à travers la France et la Belgique où elle affine son art tellement bien et même sa vision après avoir envoûté tous les spectateurs avec des courts et moyens métrages tels que Ouaga Jazzy, Ouaga HH et La Main Tendue. Elle fait sensation avec son premier long métrage documentaire Paris Mon Paradis. Ce film célèbre lors de sa première au FESPACO. A non seulement remporté le prestigieux prix du Conseil supérieur de l'information, mais a également été honoré dans de nombreux festivals à travers le monde, dont le Festival Vue d'Afrique au Canada, le Festicab au Burundi et les écrans noirs au Cameroun. En tout cas, quel plaisir qu'elle soit avec nous dans ce studio. On va découvrir l'histoire fascinante, en tout cas, d'Eleanor Yameogo, une réalisatrice inspirante dont le travail continue d'enchanter et de toucher le cœur, qu'est-ce qu'elle allait dire, à travers le monde. Alors, Eleanor Yameogo, un grand plaisir. Je vais vous demander de vous approcher un peu du micro comme moi, sinon mon ingénieur là-bas va bien m'attaquer. Comment vous allez,
Je vais super bien, Roger, et merci de me recevoir.
Ah, c'est un honneur, c'est un privilège. Je m'excuse si je suis en train de suivre, là, j'étais en train de courir, parce que quand on reçoit une VIP, c'est pas toujours facile, faut courir de gauche à droite. D'abord, qu'est-ce qui vous amène ici, Eleanor? Ici aux États-Unis, c'est pas la première fois, c'est vrai, mais qu'est-ce qui vous amène cette fois-ci ici?
Cette fois-ci, je suis aux États-Unis pour raisons privées. J'ai mes neveux qui font leur première communion.
Oh wow.
Je me dis, moi, c'est un grand moment. Exactement. Donc il faut que je vienne soutenir.
Un grand moment, mais pour nous, c'est une opportunité aussi de vous avoir ici sur VO Afrique. Un grand plaisir en tout cas. Et on sait qu'on pouvait toujours vous avoir de Paris, mais être avec nous en direct, c'est la première fois dans les locaux de VOA, n'est-ce pas?
Oui, c'est la première fois. Je pense qu'il y a 2 ans, on avait tenté, mais pour plusieurs raisons, on n'avait pas pu le faire.
Ouais, ouais.
Et cette fois-ci, ça y est, je suis dans les locaux.
Comment vous trouvez nos locaux, en tout cas?
Franchement.
Soyez honnête, hein.
Franchement, je suis agréablement surprise de voir toute cette palette, toute cette diversité de communautés ici. Et cette belle ambiance entre les travailleurs aussi, je l'ai bien noté. Et je n'imaginais pas que c'était aussi grand. C'est un honneur d'être là.
C'est vrai. Nos amis qui viennent toujours de Paris nous disent, on ne savait pas que c'était aussi grand. On a toujours cru que c'était deux petits studios.
C'est ça.
Alors, je vais essayer de commencer avec cette question. Qu'est-ce qui vous a initialement, et ça c'est la meilleure même des questions que j'aime beaucoup, initialement inspiré à devenir réalisatrice de films documentaires plus précisément, parce que c'est ce que vous faites en général?
C'est vrai que très vite, quand j'ai suis sortie de l'école de cinéma, sans même l'avoir mûri dans ma tête, je me suis orientée naturellement vers le documentaire. Peut-être premièrement parce que c'était moins coûteux, et deuxièmement aussi, je pense que notre monde qui nous entoure, il y a tellement de choses à dire dans le réel, qui voilà, on n'a pas forcément besoin d'aller créer du contenu imaginaire. Et puis, beaucoup de réalisateurs sont déjà dans la fiction.
Exactement, c'est vrai.
Ouais, donc, c'était très important aussi pour moi de raconter ce réel qui m'entoure.
Ce réel qui vous entoure. Alors, pouvez-vous un peu nous parler, pour nos amis qui nous captent, beaucoup de jeunes nous écoutent partout dans le monde et dans plusieurs pays africains. Et ces jeunes qui veulent percer dans ce monde de cinématographique. Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours académique en cinéma, notamment vos études à l'Institut supérieur dont j'étais en train de mentionner en vous présentant. Votre parcours dans cet art, c'était comment? Comment ça a été? Pourquoi? Comment ça vous est venu en tête? Papa, maman, écoutez, moi c'est le cinéma. On sait quand même que c'est le monde des cinéastes là-bas en Burkina Faso. On sait qu'en Afrique, vous nous représentez bien quand il s'agit du cinéma.
Pour être honnête, je pense que pour faire du cinéma et pour tenir, et surtout en Afrique et même ailleurs, il faut être passionné.
Exactement.
Il faut être passionné.
Oui,
ouais. Parce que moi, quand je suis arrivée à l'Institut supérieur de l'image et du son, c'est par concours, j'ai été admise.
Ah, ok.
Mais j'avais déjà d'autres activités parallèles. Donc, j'étais pas forcément parmi les meilleurs étudiants de la classe. Mais aujourd'hui, je fais partie des rares de ma promotion qui tiennent encore. Qui tiennent.
Qui tiennent encore.
Qui tiennent. Donc, je vais dire parce que je suis passionnée.
Exactement.
Et c'est ce qui compte.
C'est cette passion qui vous a...
C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. C'est pas forcément être le premier de la classe qui va faire de vous un grand réalisateur. Il faut être passionné et imaginer.
Ça, c'est profond, ce que vous dites.
Ouais, parce que et avoir de l'imagination.
De l'imagination. Ouais. Être créatif.
Et continuer à se former. Continuer à se former.
Éternellement,
c'est la formation continue qui peut vous garder dans le temps.
Oui. Ouais.
Sinon, on reste rétro. On reste rétro. On fait des films que personne ne veut voir.
Ne veut voir, ne veut regarder.
Ouais, c'est ça.
Exactement. Et là, vous parlez même de la créativité. On le sent dans vos réalisations. Hein. Et comment vous, Eleanor, vous décrivez l'évolution de votre style et même de votre approche artistique depuis vos débuts dans la réalisation court-métrage jusqu'à présent? Une évolution quand même qui se voit dans vos projets.
Une évolution, oui, parce que j'ai continué à me former. Et aussi, le cinéma aujourd'hui, c'est une grande compétition. Parce que les guichets sont devenus très peu pour financer nos films, pour subventionner nos films.
Ouais.
Donc, il faut arriver avec un projet original, et un dispositif original pour pouvoir convaincre les bailleurs de fonds.
Ah,
et surtout, en documentaire, il ne suffit pas seulement de raconter l'histoire de Roger ou l'histoire de Pierre.
Ouais.
Il faut voir comment vous racontez cette histoire-là. Quelle trame originale vous mettez en place pour raconter cette histoire. C'est ce qui va faire la différence dans les guichets. Donc, je suis toujours dans cette quête d'apporter quelque chose d'original dans mon écriture.
C'est comme ce qu'on est en train de voir, ça, c'est ici...
Le galop.
Le galop,
par exemple, je redonne vie
oui.
à un trophée.
Ouais.
Le trophée, les talents d'or de Yeninga, qui est convoité par beaucoup.
Et le galop, c'est récent, hein, c'est un long métrage, c'est récent.
Le galop est sorti en 2023. Il était en compétition au FESPACO dernier.
Oui.
Donc, dans le galop, je filme la compétition. Pourquoi ce besoin de compétition dans nos vies? Donc, je prends quatre réalisateurs dans quatre pays différents avec leurs films qui arrivent au FESPACO pour la compétition. Un moment délicat pour les cinéastes. Et moi, je décide de filmer ce moment délicat. Et pour apporter un peu d'originalité dans ce film, je redonne vie au trophée. Le trophée qui est représenté par la princesse Yeninga, une princesse guerrière, toute sa vie aussi, qui était assoiffée de trophées. Donc, je redonne vie à Yeninga et à son cheval, et qui fait la voix off dans le film. Et incarnée par Mounia Ndiaye, qui est connue au Burkina Faso. Donc, c'est elle qui fait la narration dans ce film.
La narration même de Yeninga, donc celle qui est Yeninga.
Qui tient la problématique.
Qui tient la problématique même de...
Oui, de la compétition.
Oui.
Donc, c'est une vie parallèle. Elle, sa vie Yeninga, et la vie de nos protagonistes réalisateurs en compétition.
Très profond, très 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 profond. J'espère que je n'ai pas eu la chance de voir ça encore, mais j'espère avoir la chance de voir. Mais il faut parler, il faut dire aussi qu'il n'y avait pas seulement le galop, il y avait aussi le cimetière des éléphants.
Le cimetière des éléphants, c'est mon deuxième long métrage qui est sorti en 2019, qui raconte la vie, la fin de vie de ces prêtres missionnaires blancs qui ont évangélisé l'Afrique et de retour aujourd'hui, après 40-50 ans en Afrique. Dans leur pays, la France, et dans une maison de retraite. Et le protagoniste de ce film, c'est le père de Gaulle, qui est le neveu du général de Gaulle. Il a fait 45 ans de mission au Burkina Faso. Et moi, je pars au soir de leur vie pour comprendre le sens de leur mission en Afrique. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que chrétienne, quand je faisais ce film, j'étais à un moment de questionnement sur ma foi. Donc, j'avais besoin de voir... ces prêtres-là qui nous ont apporté le christianisme en Afrique pour comprendre le sens de leur mission.
Le sens de leur mission.
Ouais,
wow.
Ça.
Alors, il y a des jeunes qui, par exemple, qui nous demandent quel conseil Eleanor peut donner à ces jeunes artistes en regardant la caméra. Quatre là, tout droit. Qu'est-ce que vous leur dites, hein, là, au fond, là, Qu'est-ce que vous leur dites comme conseil?
Comme conseil, je vais me répéter, mais c'est la passion. Il faut être passionné. Il ne faut pas venir dans ce genre de métier en espérant être star ou être riche. Il faut se dire, je suis passionné, et que se dire est-ce que le cinéma, c'est un métier.
Ouais.
Donc, il faut se former. Et être passionné.
Exactement.
Il
n'y
a pas deux mots.
Il n'y a pas deux mots, il n'y a pas...
C'est tellement dur, la compétition est tellement rude.
Mais oui.
Que si on n'est pas passionné, on va abandonner très vite.
Donc si la passion n'est pas là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Non. On peut être créatif, mais si on n'est pas passionné, il y a des scénarios, des bons scénarios aujourd'hui qui dorment dans les tiroirs. Ça, c'est connu. Donc c'est la passion qui va vous amener sur le terrain, vous battre, pour pouvoir donner vie au projet.
Au projet.
C'est ça. Donc pour chaque film, c'est une lutte.
Pour chaque film, une lutte. En tout cas, on le comprend trop trop bien. Mais... En parlant aussi des défis, Eleanor Yamogo, il y a aussi le côté money, finance, hein, pour les réalisateurs en Afrique. Comme vous l'avez dit au début, c'est pas du tout facile pour les réalisateurs africains. Ils ont toujours beaucoup de défis aussi à conquérir. Mais quand on parle même de ces jeunes qui veulent se lancer dans cette carrière cinématographique, ils reviennent toujours, le côté financier revient toujours. Il n'y a pas des bailleurs de fonds pour des projets. Il n'y a pas toujours ce genre de problème. Je ne sais pas si vous avez eu la chance avec tous vos projets, peut-être nous conseiller comment Roger Montou peut aussi aller trouver de l'argent, faire son documentaire. Mais c'est pas du tout facile.
C'est pas du tout facile. Parce que surtout l'Afrique francophone.
Oui.
L'Afrique francophone, on a hérité un peu du système français où notre cinéma, un cinéma subventionné. Et quand le cinéma est subventionné, peut-être on rentre pas dans un circuit où on devient, en quête de pouvoir rentabiliser son projet.
Son projet.
Parce que c'est un film qui a été subventionné par telle ou telle structure.
Exactement.
Donc le but, c'est de pouvoir faire le tour des festivals.
Et
finalement, on n'en vit pas.
Nous revenons dans un instant. Restez avec nous, Eleanor Yamogo. Nous revenons, on va prendre un petit break. Nous revenons pour continuer à discuter avec notre invité. Mais aussi, on va parler à cette journée internationale de la presse. Ouais, Freedom of Press. Avec Georges Léonard Sagnon et Jean-Louis Bafema. God bless. Peace, Africa. Peace. Vous écoutez RM Show, une émission de Afrique en direct de Washington, la capitale américaine. Ah, bien sûr, un grand plaisir de vous savoir nombreux. Jean-Louis vient de se joindre à nous dans ce studio. Jean-Louis, bonsoir, comment ça va, hein? Est-ce que Jean-Louis est là? Le micro de Jean-Louis.
Ouais, bonsoir, Roger.
Mais tu es en train de courir quand même malade, comme moi. Je disais à notre invité. D'abord, on applaudit pour notre invité. Je sais ce qu'on fait. Oh, ben ouais. On n'a pas applaudi pour notre invité ici. Hein, on a l'habitude de le faire. Je t'ai cherché. Je pouvais pas applaudir seul.
Mais je te dis, non, mais c'est vrai, c'est pas possible.
On court comme des malades aujourd'hui.
Quatre mains pour applaudir.
Ça, c'est sûr. Mais vraiment, Jean-Louis, on est là. On va parler, de cette journée internationale, hein, de Freedom, hein, de Press. C'est ouais. Très important avec nos collègues qui sont avec nous. Mais d'abord, nous avons notre invité, je sais que vous êtes en bas en train de tout préparer, mais voilà. Tu as aussi suivi qui elle est. Je te laisse aussi poser une question. Ah ouais, on se spot.
Attends, putain, c'est vrai, tu le mets vraiment.
Mais attends, spot, tu sais qui elle est.
Ah bien sûr.
Tu sais ce qu'elle fait.
Ah bien
et
sûr.
Et alors, donc je vais pas poser une question.
Non, c'est vrai, mais bon, tu me prends. Court,
non,
mais,
pas toi. Ouais. Toi, tu as toujours, hein? Tu as toujours des questions. Toi, pas toi en tout cas.
Non, mais moi, je veux savoir, par exemple, est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites pour les femmes, c'est-à-dire comment est-ce que vous trouvez un moyen de les encourager à se mettre sur le chemin que vous avez choisi? Parce que bon, il faut dire que il y a beaucoup de réalisateurs, mais des réalisatrices, quand il y en a, on les remarque parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que vous dites pour encourager les autres filles qui voudraient pas seulement être du côté d'être actrice, mais aussi être réalisatrice et créatrice d'idées, etc.
C'est vrai que, en tout cas, dans le monde...
Même pas seulement en Afrique, dans le monde.
Oui,
dans le monde, c'est vrai.
Dans le monde, on voit très peu de femmes dans le cinéma.
Ouais.
Peut-être, souvent, nous les femmes, on a besoin de lumière. Donc la plupart des femmes qui ont ce rêve cinématographique se dirigent souvent vers... la comédie ou être actrice ou autre pour être à la lumière. Donc on se retrouve avec très peu de femmes derrière la caméra. Mais de nos jours, surtout en Afrique subsaharienne, on trouve de plus en plus de femmes qui s'intéressent, et surtout dans le documentaire. Quand on prend le cas du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali, il y a beaucoup de jeunes femmes dans le documentaire.
C'est vrai.
Donc, c'est en train de venir.
Nous, on a notre in-house.
Nous prions.
Réalisatrice ici, Blanche Sanou, qui est derrière là-bas, elle, ouais. Donc,
Blanche Sanou qui connaît très bien Eleanor aussi, elle bien sûr.
Il n'y a pas deux comme ça.
Eleanor, Yabogo, en parlant des défis, on était en train d'en parler en première partie. Quels défis vous avez rencontrés lors de la réalisation de votre série documentaire De l'autre côté des rives sur la diaspora burkinabé en Occident?
Ah oui, faire un film, c'est vraiment un défi. Vous avez bien trouvé le mot.
Ah ouais.
Et moi qui arrive, surtout j'ai tourné l'année passée aux États-Unis, j'arrive avec mon sac au dos. Je ne connais pas vraiment les États-Unis, même si j'étais déjà venue deux fois. Et pour des raisons économiques, il fallait recruter des techniciens sur place. Donc déjà, trouver des techniciens qui connaissent un peu le monde des Burkinabés et en plus professionnels, c'était compliqué parce que bon, vu comment c'est fait, la plupart ont d'autres boulots, donc c'est pas une formation qui reste d'actualité, les compétences je vais dire. Donc j'ai eu du mal même déjà à trouver les techniciens compétents et après aussi rencontrer les bonnes personnes pour figurer dans le film. Mais c'est un défi que j'ai relevé, ça n'a pas été évident.
Pas du tout.
Et puis surtout aussi souvent en tant que femme, on se retrouve avec des techniciens hommes. Donc on est obligé de s'imposer en tant que femme et surtout aussi en tant que noire. Sinon les autres, ils font le film à votre place.
Ouais.
Donc c'est un défi.
C'est un défi, c'est pas
c'est
du
vrai,
tout.
C'est pas évident, hein, c'est vrai.
C'est pas évident.
De prime abord, comme ça, moi j'en ai vu des exemples. Une femme, on dit qu'elle est pilote de ligne, d'un avion de ligne. Et alors tout le monde était, au début, elle dit que c'était difficile de se faire accepter, mais après, quand elle a montré qu'elle était capable, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident.
C'est pas toujours évident. Et en parlant de documentaire, en tant que réalisatrice que vous êtes, quelles sont les principales thématiques ou questions sociales que vous cherchez à explorer à travers vos documentaires en général, hein?
C'est vrai que c'est pas prédéfini. C'est des moments précis comme ça où quelque chose vient me piquer, me tourne dans la tête et je commence à réfléchir. Je réfléchis et puis finalement ça me donne des visions et je commence à écrire. Donc pour mon prochain film, c'est parti d'un choc. Comment j'ai été accueillie à l'aéroport de Casablanca. Moi qui pensais rentrer sur mon continent, l'accueil, déjà, j'ai été choquée.
Wow.
Donc, c'est à partir de là...
Ça, c'est au Maroc.
Oui, ça, c'était au Maroc. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à nourrir cette problématique.
Non, attendez, Léonore, revenez encore, n'allez pas trop vite. Comment on vous a accueilli là-bas?
Ah non, mais... Vous voulez plus qu'on me laisse entrer au Maroc, c'est ça?
Non, mais quand même, non, mais vous laissez finir, on n'a pas fini. Alors, on peut comprendre.
Non, monsieur... maintenant, le cerveau est en train de tourner, ouais. Les roues sont en train de tourner dans la tête. Hein. Au fait, quand vous écrivez, vous laissez aller sans penser à comment est-ce que je pourrais réaliser ce film techniquement, ou bien vous... Il y a des gens qui ils disent, OK, en fonction des moyens que j'ai, je vais réaliser un film. Tandis qu'il y en a d'autres qui se laissent aller, ils disent, moi, je vais écrire ce que je veux. Même si je n'ai pas le budget, mais je le fais. Vous, quelle est votre préférence?
Un documentaire, déjà, moi, c'est ma démarche. Quand j'ai une idée, d'abord, j'écris pourquoi je veux faire ce film. Donc, c'est la note d'intention. Pourquoi je veux faire ce film?
Okay.
Et quand j'ai de bonnes raisons pour faire ce film, je commence maintenant les repérages. Et après les repérages, j'écris maintenant la note de réalisation. Comment je vais réaliser ce film? Quelle est la part artistique et technique que je veux innover dans ce film. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et après, la partie la plus compliquée, c'est de décrocher un producteur.
Ah, ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment ça ce qui doit être un problème.
Mais c'est ça.
Et il doit y avoir du secret aussi là-dessus. En tout cas, merci infiniment. Avant de vous laisser partir quand même, Eleonore Yameogo, est-ce que vous connaissez la dame qu'on appelle Blanche Chanou?
Blanche Sanou et moi, nous avions fait la même classe. Nous étions sur les bancs à l'Institut supérieur de l'image et du son. Donc nous sommes de la première promotion de cette école étatique au Burkina Faso.
Ah bon? Okay. Donc elle a quand même... Donc quand elle nous dit qu'elle a été à cette école-là, c'est vrai, parce que nous, on l'a jamais cru.
Elle disait qu'elle était première de classe, non?
Non, et le nom m'a déjà dit première, là, ça n'a rien à voir. On nous a déjà bien éduqués, ici aussi. Mais alors, quel secret la Blanche Chanou?
Moi, je pense que Blanche, c'est la combativité. Elle a toujours été passionnée depuis l'école. Quand elle arrive comme ça avec sa petite taille,
c'est vrai.
On peut la sous-estimer, mais c'est une boule de nerfs.
Est-ce qu'on peut applaudir?
Non, c'est vrai, ça, c'est vrai.
Parce que ici, vous avez dit exactement ce qu'on dit. Ouais, ici, on l'a surnommé général.
Ah, c'est une boule de nerfs.
Oui,
elle a toujours été comme ça.
Général.
Oui, c'est ça.
Alors, la première fois qu'on l'amène ici à VOA, elle est engagée. C'est elle qui doit produire une émission, vous et nous télé, moi et ma collègue Anastasie Tudiech. On est là, bon, moi et Anna, nous sommes des stars, on se prépare, bien habillés, tout ça. On nous dit c'est elle qui va venir réaliser l'émission. Elle arrive là, qu'est-ce que vous faites là? Allez, toi, mets-toi là. On se regarde avec Anastasie, on dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, venez ici, j'ai pas le temps, mettez-vous là. Je dis, on dit, on blague. C'est ce qu'on a compris avec elle, c'était...
Mais c'est ça. Ouais. 17 ans après, je la retrouve ici. Et c'est
17 ans après?
Ouais, c'est aujourd'hui, on se revoit et c'est une fierté de la voir là.
C'est une fierté.
Ça prouve que voilà.
Non, c'est vraiment une fierté. Et elle,
le travail était bien
fait. Arzuma Aimé, que vous connaissez aussi ici. C'est la fierté burkinabé qu'on a ici.
La fierté, c'est ma promotion.
Ouais.
On ne pouvait pas s'imaginer un jour se retrouver de l'autre côté des rives.
Exactement.
Et sur une chaîne de télé comme ça.
Waouh. Wow. Ouais, le monde est petit, comme on dit.
C'est vrai.
Eleonore Yameogo, je rappelle que vous êtes réalisatrice d'origine franco-burkinabé. Merci infiniment.
Merci
de nous avoir visité ici et d'assister dans cette émission RM Show. En tout cas, bonne chance à vous. Moi, merci. J'attends seulement le prochain documentaire. Mais on va essayer de regarder aussi déjà ce que vous avez aussi fait, avoir le temps ce week-end, surtout comme c'est le week-end qui commence. Ça va nous faire plaisir. Merci infiniment.
Merci, c'était un plaisir.
Super. La musique continue.
Make a check my conscience before I go do nonsense. Cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know they test my patience. Oh. Cause I'm a work in progress. Oh. Don't stay for that thing, no be lying. All day put my life on the line. I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes. But I shut that door. Hey, I bounce back till infinity. I won't stop everything I do. I'm on my toes, but I shut that door. Hey,
like every day we dey grind, yeah. We dey take am slow and steady, baby. Slow and steady, baby. Cause I believe in my life for me. They can't take it from me. Jembali wahala. I know like you palaba. Chocoloco bango she. Time no day. So I give my all of day. Grateful for another day. On my way. Can't keep my vibes no way. Chocoloco bango she. Time no day. So I give my all of day. Grateful for another day. On my way. Can't keep my vibes no way. I make a check my conscience. Before I go do nonsense. Cause these days I be moving crazy. My eyes red, I define my money. Make you know the taste my patience. Cause I'm a work in progress. Don't stay for that thing, no be lying. All day put my life on the line. I'll bounce back, silly billy. I won't stop. Everything I do, I'm on my toes. Back, I shut that door. Hey, I bounce back, silly billy. I won't stop. Everything I do, I'm on my toes. I shut that door.
Everything I do.
Vous écoutez RM Show, une émission de Afrique en direct à Washington. Ici, c'est votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Américain. Grand plaisir de vous savoir nombreux. Et bien sûr, on a fini avec notre invité de ce soir, Madame Eleonore Yameogo. Et à présent, on va parler de cette presse, cette journée internationale 2024, la journée mondiale de la liberté de la presse, qui est consacrée à l'importance du journalisme et de la liberté d'expression dans le contexte même de la crise environnementale mondiale actuelle. Oui, la prise de conscience de tous les aspects de la crise environnementale mondiale et des conséquences est essentielle pour construire des sociétés démocratiques d'après l'UNESCO, et le travail journalistique est indispensable à cette fin. Et bien sûr, pour en parler avec nos collègues Jean-Louis Bafema et Georges Leonard Sagnon. Georges Leonard Sagnon, une journée importante, et je pense que Georges a réalisé quelques interviews. On va en parler là, Georges.
Eh oui, Roger, salut à tous ceux qui nous écoutent. Happy Freedom Day.
That's right.
You.
Thank you.
La liberté n'est jamais acquise, hein. C'est une lutte qu'il faut mener à chaque instant de la vie. Et donc, à cette occasion-là, on a quand même recueilli quelques réactions de nos confrères, et on va commencer par Marcel Zoumenou, qui nous a bien parlé à partir de Cotonou au Bénin.
Super.
La presse minoise se porte très mal. Elle se porte très mal.
Pourquoi et comment?
Elle se porte très mal parce que d'abord, le premier élément sur lequel je me base pour le dire, c'est le classement de RSF. De 2016 à 2023, on est passé de la 118e place à la 112e place. Donc un recul de près de 34 places. Et je dois dire que ce recul est le recul le plus grand que nous avons eu en 8 ans depuis 1991, où le Bénin est devenu un pays démocratique. Et je rappelle que en 2005, le Bénin était le premier pays en Afrique en matière de liberté de presse. 26e dans le monde et premier en Afrique en matière de liberté. Et ça, c'est de lointains souvenirs.
Qu'est-ce qui explique ces reculs selon vous?
Qu'est-ce qui explique ces reculs qu'on a ces derniers temps? C'est lié à la politique du gouvernement actuel vis-à-vis du secteur des médias. Le premier indice de cette politique, c'est que tous les journalistes vivent comme des prisonniers ambulants. Tout au moins les journalistes qui osent dire des choses qui gênent sont automatiquement poursuivis, arrêtés. J'étais en prison et après, il faut la pression internationale pour que le gouvernement puisse les relâcher. Et là...
Oui, voilà, on écoutait notre confrère, donc, Marcel Zoumenou, qui nous parlait depuis Cotonou au Bénin. Roger, à présent, on va écouter quand même Serge Mavungu, qui est de Kinshasa, du journal Opinion Info.
Bonjour aux auditeurs de La Voix de l'Amérique. À mon avis, la presse en République démocratique du Congo se meurt. Aujourd'hui, il y a toute une pléthore de médias audiovisuels, en ligne et presse écrite. Mais malheureusement, les conditions de travail ne suivent toujours pas. C'est ce qui fait d'ailleurs, à mon avis, que la presse en RDC n'est pas à même de faire, par exemple, des descentes sur terrain pour aller couvrir ce qui se passe dans l'est du pays. Limitée, elle se rabat aux médias internationaux. Oui, il est vrai qu'à ce sujet, le pouvoir met à la disposition de la presse, quelquefois bien entendu, certaines informations qui, à mon sens, ne sont pas suffisantes. Au-delà des conditions de travail susévoquées, il y a aussi cette épineuse question d'accès à l'information publique qui est un véritable calvaire pour la presse en RDC. On se demande, la presse qui est la première, le premier pouvoir, ou disons la première institution qui dénonce certains maux qui se passent dans la société, mais elle-même, elle est incapable de négocier ses conditions de travail.
Bongo, Mbote Papa. Alors, Roger, à présent, on fait un tour du côté de Conakry pour écouter le président du syndicat de la presse, Sekou Jamal Diallo.
La presse guinéenne se porte très mal parce que nous sommes dans un contexte où il y a eu le brouillage des radios depuis 6 mois, le retrait des chaînes de télé, des bouquets de distribution comme Canal Plus. Nous sommes dans ça depuis 6 mois maintenant. Conséquence, c'est que certains médias, en tout cas les médias concernés, étaient obligés d'envoyer une bonne partie du personnel en congé technique. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 500 employés à Conakry, à l'intérieur du pays, qui se retrouvent au chômage technique. C'est dire que la situation est très grave ici, sans compter que beaucoup d'autres actes d'atteinte à la liberté de la presse ont été enregistrés au cours de l'année. Donc, pour répondre à votre question, façon concrète, c'est que la presse guinéenne se porte très mal.
Que faites-vous pour changer la situation?
Bon, nous avons fait beaucoup de choses. Dans un premier temps, des alertes, des courriers, des rencontres avec les autorités, ça n'a pas marché. Nous avons, au niveau du syndicat, organisé une manifestation qui a conduit à mon arrestation. J'ai fait 1 mois et 10 jours en prison et je suis revenu. Mais puisqu'on a une mission qui nous a été confiée par la corporation, on ne peut pas lâcher. Nous avons continué des démarches. Beaucoup d'autres nous ont dit de réussir encore pour voir ce que ça va donner avant toute action de terrain. Ce qui fait que j'ai pu rencontrer le ministre de l'Information et de la Communication. Nous avons eu une autre rencontre dans le cadre du mouvement syndical guinéen de façon globale avec le ministre en charge du travail et de la fonction publique. Et nous avons tout récemment écrit au président de la transition pour une demande d'audience parce que le constat est que la plupart des autorités concernées sont dépassées par la situation. On se dit désormais, c'est lui qui puisse débloquer la situation parce que ni le premier ministre, encore moins les ministres sectoriels, personne n'a pu trouver une solution.
Alors.
Ok. Ah ouais, merci voilà. En tout cas, Georges.
C'est ici. Mais oui, c'est bien de prendre un peu de partout.
C'est que Jamal,
merci à Jean-Louis qui a fait un travail robuste, comme toujours.
C'est un titan.
Merci.
Mais en tout cas, cette journée internationale là, qui est vraiment très importante, comme Georges l'a dit aussi, pour nous tous, journalistes, hommes et femmes de médias, partout dans le monde, hein, cette liberté d'expression. Hein, et surtout, cette année, d'après l'UNESCO, c'est dans le cadre la prise de conscience même sur tous les aspects de la crise environnementale mondiale.
Ouais, la protection de l'environnement.
Et exactement, ce qui est très important.
Tout à fait.
Et même de ses conséquences et aussi essentiel pour construire des sociétés démocratiques. Hein, et le travail journalistique, on le sait tous, est indispensable à cette fin-là. On le sait très bien parce que c'est notre travail aussi.
Le réchauffement climatique, Roger, c'est quelque chose. Hein. Nous sommes en printemps et ici, vous voyez comment il fait très chaud. Mmh. On était à 80 degrés, 100, presque 90 degrés au printemps ici.
Oui.
Fahrenheit, c'est qui fait à peu près, je sais pas, 35
degrés. C'est
trop chaud.
C'est trop chaud.
Donc, c'est important.
C'est notre responsabilité aussi. Voilà. C'est aussi très important pour nous.
De nous rappeler de nous sensibiliser,
d'en parler. J'ai une question pour vous deux.
Ouais, avant, comme je disais, on recevra d'abord Kerwin parce qu'il est déjà en ligne.
Ah oui, c'est ça.
Et puis, comme ça, on ne peut pas poser. Kerwin peut répondre. Kerwin prend toutes les questions. Il n'a peur des liens. N'est-ce pas, Kerwin? Est-ce que j'ai menti? Maïzo. Est-ce que Maïzo a peur? Maïzo a peur.
Bonjour, Roger. Bonjour à tous. Désolé.
Voilà, moi j'ai dit à Georges, j'ai dit Kerwin, c'est pas comme toi et moi. Lui, il a même 10 téléphones, il est content. Il voulait pas me croire.
Au nom de la liberté d'expression, pour avoir beaucoup de téléphones pour beaucoup parler.
Tout à fait. C'est bien dit, Kerwin.
Ça, c'est très bien. Kerwin, on parle de cette journée
internationale,
liberté de la presse. Comment les journalistes peuvent-ils contribuer, on le disait tantôt avec Georges et Jean-Louis, comment peut-il, pouvons-nous, vous et nous, partout dans le monde aussi, sensibiliser le public aux enjeux environnementaux actuels, comme Georges le disait?
Normalement, le journaliste, c'est comme une torche, c'est un éclaireur. L'homme qui informe, l'homme qui cherche les infos, les traite et les transmet à la population. Alors, nous avons un enjeu très important, c'est le changement climatique qui provoque des désagréments énormes à travers le monde. Si les journalistes n'utilisent pas son micro pour informer, pour éduquer, en journalisme, on dit les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. Alors, il faut que les journalistes se servent de son micro, que ce soit un micro qui apporte la lumière, parce que la lumière apporte le développement. Et on ne peut pas avoir de démocratie sans développement. Dire liberté d'expression, parler matin, midi, soir, aller apprendre, étudier, écouter la radio, si on n'est pas, si on n'est pas bien économiquement, ce n'est pas intéressant.
Ah, Kerwin, je me permets. Kerwin, je me permets. Tu as dit quelque chose de très important. La lumière apporte le développement. Est-ce que tu as l'impression que dans le continent, nos confrères, n'est-ce pas, apportent la lumière qui pourrait éventuellement apporter le développement?
Très bien.
Le problème avec les continents, c'est qu'on ne met pas nos confrères dans des conditions de paix intérieure, de sécurité psychologique, de sécurité juridique. pour apporter justement ce changement. Je suis conscient que ce sont des gens pleins de talents, mais notre démocratie est balbutiante. Lorsqu'on parle de vieille démocratie, c'est la Grèce et tout ça, c'est plus de 1000 ans. Même les États-Unis, c'est une jeune démocratie. 250 ans à l'échelle d'une nation, c'est pas beaucoup. Alors, parler des États qui n'ont à peine que 60 ans, c'est encore des bébés. Mais cela ne suffit pas tout. Les confrères ont du talent, ils veulent bien faire les choses, mais ils évoluent dans un environnement tellement dangereux qu'ils en sont réduits à être les supplétifs de la volonté des dirigeants au pouvoir, et ça c'est vraiment dommage.
Kelvin, tu es d'accord avec moi que la liberté ne s'octroie pas sur un plateau d'or, mais elle s'acquiert suite à d'autres luttes, et nos confrères souvent dans le continent se résument à faire des critiques de la politique au lieu de s'investir dans le cadre de la promotion du journalisme de développement.
Ça aussi c'est vrai. La liberté s'arrache et le respect s'impose. Alors, lorsque nos confrères ne veulent que devenir des supplétifs ou des boîtes de résonance des politiques, ça, c'est pas intéressant. Ils peuvent exploiter beaucoup de domaines, qu'ils soient des journalistes médicaux, qu'ils soient des journalistes qui font du journalisme destiné au monde rural, qu'ils soient dans des radios scolaires, qu'ils fassent des programmes qui aillent dans le sens du développement. Je pense qu'ils pourront constituer une base énorme de gens qui les suivent et constituer un contrepoids par rapport au pouvoir. Parce qu'on appelle la presse le quatrième pouvoir. Et beaucoup en Afrique ne se rendent pas compte qu'ils sont le quatrième pouvoir, à côté du pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Le quatrième pouvoir, c'est la presse. Mais qui se saisisse de ce pouvoir pour donner l'échange et faire le contrepoids politique? Si vous êtes là que pour critiquer ou pour encenser les politiques, le journalisme ne se résume pas qu'à ça. Et sur ce plan, vous avez complètement raison.
Ah, Jean-Louis a une question.
Jean-Louis m'a fait mal. Question.
Okay, oui.
Vite fait, parce qu'on n'a que deux minutes.
Oui, mais dans l'ordre global là, du monde, est-ce que le journalisme a regressé ou bien ça progresse? Quel est votre sentiment à vous personnellement, à Roger,
Georges? Le journalisme a progressé parce qu'il y a les nouvelles technologies qui ont démocratisé l'information. Avant, c'était X a dit, CNN a dit, telle radio a dit. Maintenant, ces radios ont comme concurrence les réseaux sociaux. Bon, c'est encore désordonné au niveau des réseaux sociaux, mais on ne peut plus mentir au monde, ni avoir le monopole de la vérité, parce qu'il y a des fact-checkers au niveau des réseaux sociaux. C'est la pratique qui a évolué par rapport à ce que provoquent les réseaux sociaux.
Mais est-ce que ça ne conduit pas... Vous savez, l'irritation des politiques, alors qui mène à commencer à vraiment maltraiter les journalistes.
Parce non, Kerwin l'a dit, hein, il y a des dérapages, mais il faut, c'est à nous de créer, de réguler.
Voilà. Exactement.
Ouais. C'est à nous de réguler, Roger.
De réguler. Kerwin Maïzo, le temps nous fait défaut, mais merci beaucoup à Kerwin pour le temps que vous avez accordé. Malheureusement, Jean-Georges ici ne savait pas quel téléphone utiliser. Et l'appel est...
Pour
oui, mais lui, il a utilisé l'iPhone 17 que tu as, l'iPhone 17.
On voulait avoir le meilleur son pour la voix de l'Amérique.
Exactement.
J'étais très concentré sur ce téléphone,
ouais.
Et j'ai mis l'autre sous silencieux,
ouais,
pour que ça ne nous dérange pas,
ouais.
Et c'est là où on m'a appelé.
Ah, effectivement, on doit dire merci à Michel Joseph qui n'a pas cessé d'essayer de vous avoir, en tout cas.
Merci
Kerwina, merci à Michel Joseph, merci à Nelson. Qui nous a fait la vidéo? C'est Hélène. Merci à Hélène, merci à tout le monde, vous qui êtes restés à l'écoute de cette émission. C'était votre commandant de bord, Roger Muntu, la voix de l'Amérique. La nuit porte conseil. Bonne nuit, good night, boy night, no check. God bless. Peace, Africa.